Bonjour, je vous rassure, je ne vais pas rester seul à la tribune. Je vais appeler Michel Etienne et Michel Lequellec pour cette deuxième table ronde dans le cadre de notre journée autour donc de nouveaux espaces et pratiques émergences. On va sans doute s'éloigner un tout petit peu des espaces, quoique, et arriver sur des questions autour de pratiques et de pratiques potentiellement donc émergentes associant les bibliothèques médiathèques avec deux présentations successives. La première venant d'un exemple nîmois autour du centre hospitalier et de la coopération entre le centre hospitalier et la bibliothèque, intitulée donc « La bibliothèque comme trait d'union entre l'hôpital et la cité », l'exemple de Cercavalier à Nîmes, qui sera donc l'objet d'une présentation à deux voix par Michel Etienne, directeur de la bibliothèque Carré d'Art de Nîmes, et Michel Lequellec du CHRU de Nîmes. Et ensuite, dans un deuxième temps, une deuxième présentation autour de permanences conseils sur la création d'entreprises qui sont mises en place ici même à la bibliothèque municipale de Bordeaux au sein de l'établissement central de Mériadec, qui sera présentée par Johan Bourion de la bibliothèque donc de Bordeaux en lien avec Abdesamad Bazizi de la maison de l'emploi de Bordeaux. Voilà, sans plus tarder, puisque d'autant plus que nous avons pris un tout petit peu de retard, je vais céder la parole donc à Michel Etienne et Michel Lequellec pour qu'ils nous donnent à voir et à entendre la façon dont localement à Nîmes, cette coopération entre bibliothèque et centre hospitalier a pu se mettre en œuvre et aujourd'hui est non pas remise en question, mais est, est en phase de relance à la faveur d'un futur projet architectural, sauf erreur de ma part.
Oui, merci. Voilà. Merci de cette invitation à intervenir devant vous aujourd'hui sur cette expérience qui n'est pas nouvelle. Alors peut-être il peut paraître un peu incongru de présenter l'expérience de la bibliothèque municipale en milieu hospitalier de Nîmes comme une expérience de pratique émergente. Non, ça a 15 ans. Ça a 15 ans, mais mine de rien, c'est une expérience qui reste rare dans cette configuration-là. Et on a pas mal de présentations de projets innovants en cours d'élaboration. Il n'est pas inintéressant de revenir sur une expérience qui, à l'époque, était clairement novatrice. Revenir et, avec cet effet de flashback, c'est important de pouvoir évaluer à un moment donné ce qui a été innovant et ce qui est entré dans ce qui relève aujourd'hui d'un service proposé à la population de manière régulière, inscrite dans les missions, dans les vocations premières de nos deux structures, hôpital et ville de Nîmes. Voilà, et puis finalement, c'était l'occasion pour nous deux, Michel et moi, de faire un point, de faire un retour sur nos objectifs, sur la manière de les partager, sur les marges d'incertitude, de flou qui pouvaient être revisitées, re-questionnées pour toujours s'améliorer, aller un peu plus loin. Et en effet, le projet va franchir d'ici peu une nouvelle étape. C'est un micro-projet, mais à mon avis riche d'enseignements. Je vais passer la parole à ma collègue Michel Lequellec pour une présentation du contexte et on fera un travail à deux voix qui, dans sa forme, finalement, illustre assez bien la richesse de ce partenariat.
Est-ce que ça... Oui, ça fonctionne. Merci, bonjour. Merci de m'accueillir dans votre monde. Moi qui viens intégralement du monde de l'hôpital. Donc juste deux mots en introduction, puis je repasserai la parole à M. Etienne sur ce qu'est le Centre hospitalier universitaire de Nîmes. Donc le CHU de Nîmes, dans sa globalité, c'est à peu près 2000 lits, mais dans les deux services qui nous occupent aujourd'hui, que sont Cercavalier et Ruffy. Cercavalier, c'est donc 7 hectares sur les collines nord-ouest de la ville, qui comprend uniquement du lit dédié à la personne âgée. Alors, le vocabulaire qui est là, c'est mon jargon, mais je vais vous expliquer. 154 lits d'EHPAD. L'EHPAD, c'était, il n'y a pas si longtemps encore, la maison de retraite. Ça signifie établissement d'hébergement pour personnes dépendantes. Donc, en gros, on est sur des personnes qui, bien que n'étant plus tout à fait autonomes, ne sont pas encore dans la dépendance totale. C'est l'étape d'après, c'est les 190 lits du SLD. Donc là, on est sur des unités de long séjour et on est sur des personnes qui sont en polypathologie à tendance grabataire. Nous avons sur le site de Cercavelier 42 lits de soins de suite et de réadaptation, où là nous sommes plus près de l'hôpital puisqu'il s'agit de patients qui ont vocation à retourner chez eux. Il y a également un hôpital de jour. L'autre site qui est en cours de déménagement, on va dire, enfin là, aujourd'hui, en même temps que je vous parle, a lieu le concours d'architectes pour la relocalisation du site de Ruffy. Donc il y a la chance aujourd'hui de disposer d'un hectare de terrain au cœur de la ville de Nîmes et au pied des arènes, ce qui est très important pour les personnes âgées qui y résident. Donc 108 lits d'EHPAD actuellement. Et le concours d'architectes qui a lieu aujourd'hui doit relocaliser ces 108 lits sur le site de Cercavalier. Et c'est à la faveur de cette relocalisation de ces 108 lits que nous avons souhaité, le CHU, étendre le projet à la bibliothèque qui existe déjà donc, depuis 15 ans, comme vient de vous l'indiquer M. Étienne, mais qui va prendre une nouvelle dimension. Ça, je vous en reparlerai à la fin de notre intervention. Voilà, donc ce qui est concerné par cette expérience CHU bibliothèque, c'est des personnes qui sont en résidence, donc sur une longue durée. On n'est pas du tout sur le versant sanitaire de l'hôpital, qui lui se situe à 12 km de là. Voilà, donc vous avez la localisation de ce que je viens de vous expliquer. Donc le centre de gérontologie de Cercavalier que vous voyez en haut à droite, la maison de retraite de Ruffy qui est à côté des arènes, et 12 km plus loin, le plateau technique, les urgences, la médecine, la chirurgie, l'obstétrique, où il n'y a pas encore d'antenne du carré d'art. Pas encore, on ne sait jamais. Mais donc nous sommes partis. Voilà, donc ça c'est le site de Cercavalier. Donc le bâtiment blanc du centre, je ne sais pas comment ça fonctionne ce truc-là, il faut appuyer là-dessus. Voilà, donc le bâtiment blanc avec au rez-de-chaussée, la bibliothèque actuelle. Le site c'est tout ça, hein. 7 hectares, c'est tout ça. Donc vous voyez là des pavillons. Le futur bâtiment va se situer ici, dans le même U ouvert, mais plus bas, puisqu'on a aussi une contrainte de dénivelé. Donc la bibliothèque qui se situe ici, nous l'avons pensée un peu différemment. Vous verrez tout à l'heure, je vous expliquerai ça peut-être un petit peu mieux. Nous l'avons pensée comme le cœur du village qu'allait devenir Cercavalier, avec des liaisons plus fonctionnelles également pour les résidents qui sont aujourd'hui pas très éloignés, mais en fait le dénivelé est important et ça pose des problèmes aux fauteuils roulants pour remonter jusque-là. On passe peut-être, hein, je crois que... Voilà, l'entrée du site que vous avez là, et ça, les bâches là, c'est l'actuelle bibliothèque, hein. Bon, évidemment, on est à Nîmes, hein, et on est plein sud, donc il n'y a pas d'arbres à cet endroit-là. Il y en aura encore moins demain, parce que nous ne pouvons pas les conserver. On va abattre beaucoup d'arbres pour construire le futur bâtiment. Je crois que voilà. Donc le constat, l'EHPAD, ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont des résidents qui sont en perte d'autonomie, et la tendance, c'est qu'ils sont de plus en plus en perte d'autonomie, puisque actuellement l'âge moyen d'entrer dans une maison de retraite, autrement dit EHPAD, est de 85 ans. Aujourd'hui, on reste chez soi le plus longtemps possible, dans ses meubles, avec ses enfants, ses petits-enfants, voire ses arrière-petits-enfants. En USLD, donc les unités de soins de suite, de long séjour, ce sont des résidents qui, eux, sont de plus en plus polypathologiques et de plus en plus grabataires. Donc, ce sont des gens qui ne vont pas se déplacer à la bibliothèque, mais ce sont des gens vers lesquels la bibliothèque va se déplacer. On va vous en parler tout à l'heure avec le portage de livres qui est très important à la fois sur Cercavalier et sur Ruffy. En SSR, les patients qui ont en revanche vocation à rentrer chez eux, et la tendance c'est qu'ils rentrent chez eux de plus en plus rapidement. Donc tout ça pour expliquer que la bibliothèque a peut-être à se renouveler et à s'ajuster à la typologie des résidents qui se déplaceront de moins en moins, ou qui, s'ils se déplacent, c'est pour retourner chez eux, et donc rester le moins longtemps possible sur Cercavalier. Je vais laisser la parole à M. Étienne pour le projet initial.
Voilà, rappeler quelques données historiques. Donc 99, effectivement, une première convention qui marque la création officielle de cet espace-là. 99, ce sont les années où se mettent en forme, effectivement, au niveau des ministères de la Santé et de la Culture, des protocoles d'accord qui favorisent les actions ensuite sur le terrain avec des financements particuliers mobilisés pour le développement d'activités culturelles et si possible à la fois événementielles et continues, intégrées dans l'offre de l'organisation des espaces et le projet, je dirais, des établissements hospitaliers. Et donc 99, première convention qui sera renouvelée ensuite d'année en année entre donc tout simplement la ville de Nîmes et le CHU de Nîmes, qui se retrouve sur des objectifs qui sont posés dès l'origine du projet et qui marquent l'originalité quand même de cette expérience. C'est-à-dire que l'hôpital donc, cible le service de gérontologie sur un site particulier qui se prête à une offre de lecture publique, enfin, qui reste à concevoir de manière tout à fait adaptée à ces publics, hein, dont vient de définir un peu les caractéristiques ma collègue Michel Lequelec. Et du côté de la ville, il y a tout de suite l'idée sur ce site. Qui est un site agréable, attractif, au milieu sur une colline nord de la ville, de créer une annexe à part entière de la bibliothèque. Et donc l'originalité de cette expérience, c'est qu'on a, depuis l'origine, offert un espace qui est adapté au public des résidents, des patients, il faudrait dire.
Résidents.
Et au public du quartier, dans une carte de desserte des quartiers de la ville de Nîmes, qui était donc à cette époque-là, et qui l'est encore, hein, puisqu'il n'a pas évolué, on n'a pas créé d'annexe supplémentaire depuis ces 15 dernières années, mais un réseau et un maillage de bibliothèques de quartier relativement lâches, et encore aujourd'hui en deçà de ce qu'une ville aussi importante, de 145 000 habitants, sur un territoire particulièrement important, doit pouvoir offrir à ses habitants. Donc on est dans un contexte de sous-équipement. Et à l'époque, en 1999, créer une nouvelle bibliothèque à Serre-Cavalier, c'est répondre à un vrai besoin de maillage du territoire en offre de lecture publique. Et on est dans un contexte particulier parce que, d'une part, le site s'y prête. C'est un lieu avec son parc, avec son jardin d'enfants, qui de fait est attractif, et qui se situe dans un quartier qui, quand même, il y a des composantes socio-professionnelles qui ont facilité, je dirais, d'abord la participation des habitants à la conception du projet. Et je crois qu'il faut rappeler que le comité de quartier a été particulièrement investi dans la programmation de ce service-là. Et on a affaire à une population qui se renouvelle, qui participe de ces quartiers nord de la ville de Nîmes plutôt aisés, plutôt favorablement marqués par des niveaux de diplômes, de salaires, dans une ville qui est extrêmement contrastée, des quartiers qui se caractérisent plutôt donc par une forme de familiarité avec l'offre culturelle et qui est d'entrée et d'emblée réceptive à la proposition qu'on peut lui faire. Deux écoles élémentaires d'application à proximité, c'est un gage aussi pour cette question de l'intergénérationnel que j'ai passé un peu vite parce que c'était le mot-clé tout à l'heure dans les objectifs des deux entités institutionnelles qui ont porté le projet. Vraiment, l'intergénérationnel était au cœur, de la finalité que l'hôpital se proposait de développer. La présence de ces deux écoles n'était pas négligeable dans le paysage et elle a très vite effectivement permis de concrétiser des actions entre le public scolaire et le public des résidents, personnes âgées. Une forte volonté politique, bon, ça, rien ne peut se faire sans, je dirais, l'implication même personnelle des acteurs politiques du moment. Je ne pourrais pas citer le nom du directeur de l'hôpital de l'époque, je ne sais pas si... Mais en tout cas, son investissement était, je dirais, même personnel sur
Monsieur
ce dossier.
Mazereau,
oui, je
Monsieur
crois
Mazereau,
que
oui, je pense que c'est.
Et du côté de la ville, on était avec Alain Clary sur le mandat communiste de 95 à 2001, et donc un investissement peut-être particulier sur un projet comme celui-là, de la part de la mairie. Les termes de la convention qui ont été donc reconduits jusqu'à aujourd'hui sont assez précis sur la répartition des engagements qui doivent permettre de faire fonctionner cet outil. Parce que on a beaucoup parlé d'aménagement d'espace, d'imbrication, de fonction, de service culturel. Et c'est particulièrement le cas pour le dernier exemple qui a été présenté, où on a affaire à un vrai puzzle. La question qui se pose, c'est de savoir comment on fait vivre ces espaces-là, hybrides, mixtes, en faisant, en articulant des contributions de partenaires qui ont leur indépendance de gestion et de politique, et comment est-ce qu'on arrive à faire fonctionner au quotidien tout ça. Et une convention est souvent indispensable pour fixer les termes de cette collaboration au quotidien. Et là, la nôtre fixe un certain nombre de charges sur lesquelles on s'engage réciproquement. Bon, vous voyez que le CHU s'est tout de suite donc engagé à réserver et à aménager un espace dédié qui n'est pas grand, 110 mètres carrés, mais qui a été bien traité en termes de mobilier et dont le renouvellement reste à la charge de l'hôpital, alors que la ville s'est occupée de l'équipement informatique et de la mise à disposition du système de gestion informatique, qui est celui de son réseau municipal. Mais en termes de moyens humains, c'est particulièrement crucial, c'est-à-dire qu'il faut formaliser le partage des charges aussi de ce point de vue-là. Et donc un ETP du côté de l'hôpital, 1,5, puis aujourd'hui 2 ETP du côté de la bibliothèque. Cette évolution, elle va devoir probablement évoluer encore parce qu'on est un peu victime de notre succès. Donc on est finalement aujourd'hui, par rapport à ces contributions, dans une situation un peu tendue. Et notre travail autour de la convention qu'il s'agit de renouveler va aussi porter là-dessus. Ce qui permet quand même une large amplitude d'ouverture. 26 heures en milieu hospitalier, c'est extrêmement rare. On est sur une moyenne en bibliothèque, je dirais plus traditionnelle, ouverte en milieu hospitalier, sur des moyennes de 16 heures par semaine, tous établissements confondus, mais en maison de retraite, c'est particulièrement rare. Ça allait moins dans le nord de l'Europe, mais en France, ça reste quand même encore très rare. Donc la bibliothèque municipale met, je dirais, toute son organisation autour de la sélection, toutes ses compétences autour de la sélection et du développement des collections au service de ce projet-là. Et c'est réellement une bibliothèque de plein exercice au sein du réseau de lecture publique, avec un gros programme d'action culturelle, d'animation dans les lieux à l'initiative de la bibliothèque, mais aussi à l'initiative de l'hôpital, qui alloue un ETP en la personne d'un référent culturel dont la mission est bien de développer des actions dans les lieux au plus près des résidents et ouvertes sur le quartier. Toujours cette double dimension. Voilà quelques vues de l'intérieur de la bibliothèque. Petit espace, mais chaleureux, et dans lequel on développe... on aime bien cette photo. C'est celle qui rejoint celle qu'on avait... que vous aviez sélectionné, parce qu'on a cette rencontre des âges et des générations qui n'est pas un photomontage, c'est la réalité de l'activité de ce lieu qui, dans son organisation et son animation, amène ce genre de rencontre. Quelques chiffres sur l'activité de cette bibliothèque. C'est quand même 20 000 documents. C'est des documents dont la partie jeunesse est assez développée. Vous voyez que c'est quand même 30% de l'ensemble des collections mises à disposition, parce que clairement, ces collections soutiennent un certain nombre d'actions autour de l'intérêt générationnel, et le public des enfants est particulièrement présent sur le site. Et c'est un fonds qui est régulièrement renouvelé, puisque on aura en 2013, puisque là vous avez un chiffre qui n'est pas en année pleine, de l'ordre de 2000 documents, c'est-à-dire un taux de renouvellement de 10%, qui est ce qu'on préconise de manière assez classique. Mais encore une fois, en milieu hospitalier, ce n'est pas du tout les chiffres qu'on rencontre le plus souvent. Et les budgets d'acquisition sont aussi assez confortables, ce qui permet d'une réelle qualité d'offres documentaires aussi. 23 000 euros par an, voilà. Donc en termes d'adhérents, c'est aujourd'hui, ce sont des chiffres 2012, c'était 861 personnes inscrites, avec des progressions importantes notamment depuis ces 5 dernières années. Mais de 2012 à 2013, c'était encore... Alors on est content de ces chiffres, parce que dans nos bibliothèques, on se désespère de voir remonter les chiffres d'inscrits, on se désespère de même de voir remonter, ou stabiliser dans certains lieux les chiffres de prêts. Et là, sur une expérience comme celle-là, on est sur des progressions qui continuent à s'opérer. Voilà. Alors, un public d'adhérents qui se répartit en trois grands ensembles. Bon, 61% de public adulte inscrit, 33% d'enfants, et puis 6% qui proviennent de ces collectivités avec lesquelles on travaille au quotidien, bon, les établissements scolaires, les crèches, et d'autres collectivités, associations. Sur les 61% d'adultes inscrits, 9% sont des résidents de l'établissement. C'est-à-dire que 80 personnes se sont inscrits, mais ont été actifs dans l'année, ont emprunté au moins une fois. Mais 80 personnes sur le public dont Michel Lequelec a défini un peu le profil, c'est bien. Et ça veut dire qu'un certain nombre de ces 80 personnes ont pu emprunter parce qu'un système de portage dans les chambres a été mis en place et fonctionne régulièrement. Il y a parmi ces personnes-là un certain nombre de personnes trop âgées ou trop atteintes pour se déplacer réellement à la bibliothèque. 20% des résidents sont donc utilisateurs de la bibliothèque. C'est un chiffre un peu, enfin c'est peut-être un peu moins que ça, mais c'est pas loin de ça. Pour une activité globale de 35 000 prêts, voilà, en progression également sur toutes ces dernières années, mais qui repose sur une forte présence des publics extérieurs. C'est-à-dire que ce qui permet ce flux, c'est en très grande partie l'attractivité de ce lieu sur son quartier, hein, sur les familles du quartier, qui viennent fréquenter ce lieu avec leurs enfants, qui viennent rendre visite aux proches, aux parents, aux grands-parents qui peuvent être, qui peuvent résider dans le lieu, mais pas forcément. Voilà, et c'est toute la, et c'est ce qui permet cette permanence de l'offre, cette amplitude horaire, cette qualité de renouvellement des collections, c'est cette dimension d'ouverture sur le quartier, c'est indéniable. Ce qui permet aux résidents de profiter d'un vrai foyer de vie dans les lieux, ce qui est tellement rare dans ces maisons de retraite. Et on a des points de comparaison, et vous et nous, parce que nous cherchons à desservir par ailleurs sur un mode de portage beaucoup plus, moins, dans une formule moins ambitieuse et beaucoup plus fragile, hein, mais nous desservons aussi à la bibliothèque municipale de Nîmes avec un petit groupe de 4 personnes, jusqu'à 8 maisons de retraite publiques ou privées, autonomes, sur le territoire de la commune. Et les situations sont extrêmement contrastées, mais difficiles dans l'ensemble, hein, sur la présence d'un vrai relais dans les lieux, sur la capacité à aller au-devant des personnes âgées dans les lieux, à leur offrir autre chose que quelques valises de documents ouvertes sur une table. Voilà. Alors là, on est tout à fait dans autre chose. Et à côté de ce flux, je dirais, de cette activité de fréquentation des lieux, d'emprunt, qui crée un vrai foyer de lieu au sein du site et du bâtiment principal, on a développé tout un programme d'animation qui génère cette mixité, qui génère cette rencontre réellement entre les résidents et les enfants ou le public familial du quartier. C'est vrai d'un certain nombre d'animations ponctuelles qui sont organisés à la faveur des gros événements portés par le réseau des bibliothèques de Nîmes, parce qu'encore une fois, on a affaire à une annexe qui participe du travail d'ensemble du réseau, hein, aussi à ce niveau-là, mais surtout par les rendez-vous réguliers qui touchent au conte, à l'éveil musical, et récemment, depuis le début de l'année, à la projection de films, grâce à la possibilité d'utiliser une belle salle polyvalente dans les lieux mêmes. Atelier d'écriture, je dirais que c'est moins une source de rencontre des publics, parce que ce sont des choses qui sont plus ciblées sur un public, alors en l'occurrence celui de la clinique des Sophoras, qui est une clinique psychiatrique. Et voilà, donc action plus ciblée, mais les trois, enfin la plupart des activités amène d'une manière ou d'une autre ce type de rencontre entre les publics. Et je serai à Michel Lequelec la possibilité de développer ce qui se travaille, notamment du côté de l'hôpital et avec la ressource de la référente culturelle, ce qui se développe dans ce domaine-là, au plus près des résidents dans le service.
Donc, dans le cadre de la convention qui a, dans le cadre de la convention qui a été signée, je ne sais pas si ça fonctionne. J'ai pas l'impression. Comme ça. Merci. Je suis pas sûre que ça marche mieux, mais peut-être qu'on m'entend sans rien.
Roland.
On m'entend. Bon, très bien, merci. Donc, dans le cadre de la convention qui a été signée, il était prévu effectivement qu'un équivalent temps plein d'agents soit mis à disposition de l'action culturelle du CHU. L'action culturelle du CHU, ce n'est pas seulement l'action qui est menée en commun avec le Carré d'Art. Nous l'entendions, nous, CHU, comme quelque chose de plus large. Donc, Séverine Salle, pour ne pas la nommer, la référente culture du CHU travaille une partie de son temps, mais je dirais que ça ne va pas au-delà du tiers de son temps, pour la bibliothèque et le service de la bibliothèque au public et le portage de livres. Le reste du temps, elle travaille sur la mission culturelle et la mission intergénérationnelle, puisque l'intergénérationnel est un axe fort de la prise en charge de la personne âgée que nous essayons d'offrir sur le site de Cercavalier-Ruffy. L'intergénérationnel, pour nous, c'était à la fois faire que le quartier, mais ça, M. Étienne l'a déjà longuement développé, donc je ne vais pas aller plus loin, que le quartier puisse entrer dans l'enceinte du CHU et utiliser à la fois le parc, puisque ça, c'est faisable aussi, le parcours de santé, la bibliothèque. Et c'était aussi l'intergénérationnel avec donc les petits, voire les tout-petits, et l'action que nous avons avec les deux écoles d'application qui sont dans le quartier, mais aussi la crèche, que nous accueillons très régulièrement pour faire des lectures, pour faire des ateliers de contes. Nous nous servons du livre comme médium, pour travailler sur la mémoire, puisque les personnes qui sont en résidence à Cercavalier sont pour une bonne moitié atteinte de la pathologie d'Alzheimer, soit débutante, soit profondément ancrée, enfin à des stades différents. Et le livre, le conte et tout cet aspect culturel nous permet aussi de trouver un moyen d'entrer en communication avec ces résidents qui sont dans leur monde, je dirais. Donc, l'intergénérationnel pour nous, je le répète, c'est un axe fort de la politique de prise en charge de la personne âgée sur le CHU. Nous avons développé peut-être le prix Chronos. Pourriez-vous en dire deux mots plus que moi, puisque vous étiez
oui,
là au départ.
Oui, c'est une expérience qu'on mène depuis plusieurs années sur le site. Et, en fait, pour résumer, oui, c'est un prix de littérature jeunesse effectivement qui implique les établissements scolaires. Et en l'occurrence, je crois qu'on a 8 classes impliquées sur Nîmes dans ce projet qui consiste à associer les enfants à la lecture par tranche d'âge. D'un certain nombre d'albums et qui vont être primés sur le thème de la vieillesse, de la mort, de la relation entre les générations, de la transmission du savoir. Et c'est des moments de un peu à haut risque, parce que ce sont des thèmes qu'on n'aborde pas pas facilement. Dans ces lieux-là et avec ces publics-là. Et les enfants peut-être permettent une forme de dédramatisation de ces questions-là et ouvre un espace d'échange, de dialogue et d'expression qui est toujours très riche.
Alors c'est vrai que le site de Cercavalier s'y prête particulièrement puisque il est convivial, il est agréable, il est actuellement encore boisé, même si demain matin il le sera un petit peu moins. Mais ça permet d'accueillir les classes des écoles environnantes aussi pour les crosses, pour des courses d'obstacles qu'ils font. Il y a ce lien en permanence entre ce qui est ouvert et ce qui est fermé, ce qui est dedans, ce qui est dehors, ce qui est de la petite enfance, ce qui est de la vieillesse. Et puis ces passerelles que nous essayons de tisser entre ces générations. les personnes âgées sont parfois en demande de participer à des ateliers avec les tout jeunes enfants. Parfois, pas du tout. Hein. La personne âgée peut très bien demander à rester éloignée parce qu'elle n'aime pas le bruit, parce qu'elle n'aime pas le mouvement. Et Dieu sait si les enfants peuvent faire ces deux choses-là. Donc voilà, c'est un peu à la demande. Il y a l'aspect portage de livres qu'on n'a peut-être pas évoqué encore, qu'on évoquera. Voilà, c'est dans la diapo suivante. Donc le portage de livres, il est effectué par l'agent hospitalier qui est chargé de la culture, qui se rend au chevet des résidents, aussi bien de Ruffy que de Serre-Cavalier. Donc elle a une demi-journée dédiée pour chacun des deux sites pour leur faire la lecture sur des livres qu'ils auront choisis. Les lectures musicales, alors c'est proposé donc aux résidents une approche un peu différente. Hein, c'est à partir de lectures qui seront mises en écho avec en écho musicalement pour développer l'approche sensorielle sur laquelle nous travaillons aussi par d'autres concepts plus spécifiquement hospitaliers en lien avec la personne âgée. Un concept Snozelen qui nous vient des Pays-Bas, qui est une approche multisensorielle de la personne âgée qui n'a plus de possibilité de communiquer si ce n'est à travers les images, les sons et les odeurs. Donc la musique en fait partie. Que vous dire d'autre ? Parler de nos difficultés. Ben, Monsieur Étienne vous l'a dit au départ, hein, ce sont deux entités juridiques indépendantes, autonomes, avec leur mode de fonctionnement, leur tutelle, leur jargon, notre manière de décompter le temps qui n'est pas le même. Je crois que la volonté, elle existe. Je crois qu'il n'y a pas de souci. On est quand même extrêmement satisfaits l'un comme l'autre de ce fonctionnement et prêts à faire un pas vers l'autre pour que ça continue. C'est vrai que la convention, là, pour l'instant, elle n'existe plus puisqu'elle n'a pas été renouvelée en 2010. Alors, il y a un accord cadre plus global qui a été passé entre la ville de Nîmes, la DRAC, dont dépend le carré d'art, et le CHU. Au point de vue plus vaste, je dirais, de la culture, mais il reste à nous deux à écrire la prochaine convention qui fixera les modalités pratiques de notre coopération dans le cadre de l'ouverture des nouveaux locaux, dont je vous dirai un mot tout à l'heure.
Oui, c'est voilà, on a ce travail effectivement de réinterrogation de voilà sur, en ce qui concerne l'écriture de cette nouvelle version de la convention. On s'aperçoit à l'occasion de ce travail-là qu'effectivement ça reste très important de l'expliciter. Il manque des choses essentielles dans la manière de gouverner. De gérer à deux entités institutionnelles distinctes ce même projet. C'est pas parce qu'on dans une convention on écrit qu'on doit se rencontrer deux fois par an qu'on le fait vraiment, mais ça manque quand même d'inscrire dans la régularité des échanges. On est évidemment par la force des choses, c'est un projet parmi d'autres et pour l'hôpital et pour nous on ne prend pas ce temps, c'est dommage. Parce qu'on a besoin régulièrement de se réinterroger sur nos objectifs respectifs. Est-ce que cet équilibre entre les deux vocations de la bibliothèque est toujours bien respecté ? Aujourd'hui, la part prise par les publics extérieurs est devenue très importante. Elle nous mobilise, nous, peut-être plus qu'auparavant. Il faut être vigilant sur la spécificité de l'offre de nos actions en direction du public résident. Voilà, et donc peut-être travailler tout simplement sur des fiches de poste qui soient parfaitement articulées entre l'agent culturel, le référent culturel de l'hôpital et nos agents à nous. C'est tout bête, mais qui fait quoi, à quoi consacre leur temps chacun de nos agents, ça reste très important de le repréciser. Mais ce qui permet ce travail-là de manière positive, c'est qu'on est dans une perspective d'extension de la bibliothèque. Et donc, dans le souhait de conforter cette offre de services au sein de l'hôpital.
Peut-être rapidement, voilà. Effectivement, pour conclure sur ce projet qui va se traiter en parallèle finalement de d'objets liés à la convention, à la répartition des tâches, de sorte à ménager un tout petit peu de temps pour une ou deux réactions dans la salle. Le projet d'extension.
Alors, le projet, à son origine, a été bâti comme étant le cœur du bâtiment, le bâtiment que je vous ai pointé au départ, c'est-à-dire ce bâtiment blanc que vous avez aperçu. La bibliothèque actuellement se situe au rez-de-chaussée de ce bâtiment. Elle va faire partie intégrante de la restructuration du site, hein, parce que au-delà de la reconstruction des 150 lits qui va se faire, nous avons souhaité remodeler complètement le hall d'accueil du site de Serre-Cavalier pour en faire un cœur de village, pour en faire une rue. Alors, actuellement, sur ce hall, il y a à la fois la bibliothèque telle qu'elle existe, il y a une petite boutique Relais H, il y a un salon de coiffure et il y a ce que nous appelons le restaurant des familles, donc qui est ouvert aux familles et aux résidents le mercredi midi et le samedi midi. Donc la volonté, lorsque nous avons choisi le projet architectural qui a été retenu, c'était de faire de cette circulation, non plus seulement une circulation entre le bâtiment actuel et le futur bâtiment, mais d'en faire un cœur et un cœur vivant. Donc l'idée de l'architecte cabinet séquence de Toulouse qui a été retenue, c'était de ramener la bibliothèque vers le centre du hall, de créer un lieu de convivialité avec une espèce d'arène, et on est anime, hein, donc ça nous obsède, où les enfants et où les personnes âgées, les personnes qui viennent chercher des livres, les personnes qui viennent lire tout simplement puissent s'asseoir. Donc c'est la partie arrondie que vous voyez là sur le côté droit. Il y a également la même typologie d'arène pour l'été dans le jardin, puisque ce sera ouvert, c'est à ce niveau-là, je ne sais pas si ça se voit, ce sera ouvert complètement sur le jardin. Alors c'est amusant de voir comment, avec les deux intervenants précédents et les deux projets, on a des points communs. Vous avez parlé de jardin suspendu, moi je vais vous parler de jardin thérapeutique. Vous avez parlé d'arbres, je vous ai parlé d'arbres, étant dehors, dedans. On est exactement sur la même volonté. Donc on a ramené, c'est la partie rouge à la place de la partie verte qui est la partie existante. Donc la partie rouge, c'est la partie qui existera normalement en juin 2015. Avec, si vous permettez, je vais reprendre le... Voilà, avec de l'autre côté, là juste en face, le relais H et le point boisson, hein, pour créer un coin de convivialité. Le coiffeur, lui, il est ramené du bout, il est ramené juste en face ici. Et le restaurant des familles se situe ici. Donc voilà, on est sur une place de village. Et le projet a été complété par deux grandes salles d'animation qui sont complètement fermables ou ouvrables en fonction de ce qu'on souhaite y faire, pour être utilisables par la bibliothèque en cas de besoin ou par d'autres soit par nous-mêmes, soit nous avons imaginé qu'elles puissent aussi être utilisées par les gens du quartier en tant que salle où ils peuvent venir répéter une pièce de théâtre s'ils ont une association qui tourne autour de ça, une chorale, pourquoi pas une fanfare, un orchestre, enfin ce que bon voudra. Et on a de ce côté-ci tout un accès complètement, qui sera complètement ouvert pas mal de temps dans l'année, puisque quand même il fait chaud chez nous, sur un jardin thérapeutique. Alors, appelé thérapeutique parce qu'il est à la fois suspendu, mais il est aussi en hauteur, c'est-à-dire qu'il est accessible aux personnes qui sont en fauteuil roulant, qui pourront jardiner à hauteur de leur fauteuil. Voilà, donc le cœur du village d'ici un an et demi.
Merci beaucoup pour cet exposé et la présentation de cet espace, comment à partir d'un lieu et de la mobilisation de personnel, vous êtes parvenu effectivement à ouvrir un espace qui n'est pas forcément très facile d'accès ou très agréablement fréquenté, l'hôpital, à un public de quartier, à croiser effectivement des populations et des générations. Je vous propose qu'on entende peut-être une ou deux questions ou réactions dans la salle avant d'enchaîner rapidement sur la fin de notre matinée et la dernière table ronde. Y a-t-il une intervention éventuellement ? Alors moi, s'il n'y a pas d'intervention, je vais juste demander par rapport à cette... Bon, alors allons-y, monsieur de la BPI.
Vous dites que la convention a expiré en 2010. Qu'est-ce qui a fait qu'il en soit ainsi ?
Le temps
je dirais, je vais être simple et direct. En fait, ce retard, il tient au fait que, au-dessus de ce niveau de conventionnement spécifique pour Serre Cavalier, un travail de conventionnement plus large, de coopération culturelle entre l'hôpital et la ville, tous services culturels confondus, a été engagé et a pris, lui, beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que notre convention Serre Cavalier devient un avenant d'une convention beaucoup plus large, avec des enjeux peut-être un peu plus larges et pas forcément aussi simples à mettre en forme entre l'hôpital et la ville, mais alors encore une fois sur tout, enfin les musées, les bibliothèques, le théâtre, etc. Et c'est ce décalage, vous voyez, c'est cette qui explique le retard. Mais finalement, on a continué à fonctionner sans convention.
C'est ce que j'allais dire.
Tout n'est pas tombé par terre.
C'est pas un problème. Avec ou sans convention, nous travaillons toujours. La bibliothèque est ouverte. Il y a toujours des réunions entre nous. Les agents travaillent complètement en symbiose, puisque la personne qui travaille pour le CHU fait ce que vous appelez le service au public.
Oui, bien sûr.
Moi, je me demandais ce que ça pouvait être le service au public.
Oui. Ça fait partie du jargon.
Voilà, donc il n'y a pas de problème, ça roule.
Merci beaucoup. Et je suppose évidemment que à la faveur de l'extension et du projet que vous avez présenté d'exposé, ben voilà, ça sera l'occasion de remettre autour de la table vos décideurs et les politiques de la ville et du CHU, les responsables du CHU, pour effectivement pouvoir refonctionner dans le cadre d'une convention, même si on arrive heureusement à fonctionner également sans que les conventions soient resignées, c'est parfois nécessaire et fort utile de pouvoir les recadrer, ne serait-ce que pour donner un nouvel essor à une coopération aussi exemplaire et remarquable. Merci beaucoup de cette présentation.
Merci à vous.
On a une question. Ah pardon, excusez-moi. Alors nous prenons une dernière question. Je ne vais pas arbitrer entre les deux. Madame a le micro, donc on va vous écouter.
Il semble que vous soyez une expérience rare, peut-être même unique en France. En tout cas, vous êtes la seule structure de ce type citée par Ivalix dans son rapport d'inspection des bibliothèques. Est-ce que vous confirmez cela? Et si vous le confirmez, comment pouvez-vous expliquer que vous soyez une expérience peut-être unique?
Réponse courte à une question qui pourrait étendre assez longtemps.
Non, ça reste dans cette configuration, encore une fois, d'une bibliothèque de quartier, bibliothèque d'hôpital ne faisant qu'un. Non, ça reste unique en France. Oui, c'est une succession de facteurs favorables qui ont amené à ça. Je suppose qu'il y a plein d'autres lieux qui s'y prêteraient aussi. Mais on est dans un contexte où les investissements que cela suppose en milieu hospitalier sont peut-être plus difficiles à réaliser, contexte tendu, et quand il s'agit de mobiliser des moyens de fonctionnement pour faire en sorte que ça marche, parce que finalement ça repose là-dessus, sur la régularité des moyens de fonctionnement mis en œuvre, le contexte est beaucoup moins favorable aujourd'hui qu'il y a 15 ans.
Merci. Et malgré tout, c'est la preuve que ça peut exister et que ça peut sans doute se décliner ailleurs sur le territoire. Je vous propose d'enchaîner avec Johan Bourion et Abdessamad. Donc j'appelle à Johan Bourion et Abdessamad Bazizi de la bibliothèque de Bordeaux et de la maison d'emploi de Bordeaux pour une présentation autour de la coopération mise en œuvre à la bibliothèque de Bordeaux et, enfin, Johan nous le précisera, me semble-t-il, d'abord et avant tout à Mériadec, autour d'un point d'accès ou de points d'accès sur l'emploi et de la maison de l'emploi de Bordeaux.
Eh bien, bonjour. Alors, cette intervention est garantie sans support visuel, parce que le mieux, c'est d'aller voir sur place. C'est à deux étages au-dessus, donc entre midi et deux, vous pourrez voir en visite guidée ou visite libre. Alors, je vais présenter l'espace actualité dans un premier temps, puis Abdessamad présentera la maison d'emploi, puis après on interviendra assez vite sur la question des partenariats. Alors ça se passe à Mériadec, mais aussi sur le réseau des quartiers. Le partenariat intervient aussi dans les bibliothèques de quartier. Alors à la bibliothèque Mériadec, on a la chance d'avoir depuis la création un espace actualité. Alors un espace actualité, Alors ça peut être un café, comme disait le collègue architecte, mais c'est plutôt axé là sur l'emploi et la formation. Et dès l'origine, en 1991, cet espace est fondé sur une notion très anglo-saxonne de la vie quotidienne, en fait, hein, d'aide aux citoyens, avec un espace intégrant des collections de presse, bien sûr, mais des collections de guides pratiques. Alors ce type de service est amené à évoluer. Et en 2008, un nouveau projet surgit, cette fois-ci vraiment axé sur l'emploi et la formation. Alors ce projet émerge grâce à l'analyse du territoire, de l'environnement, ça c'est quelque chose de très important. Et donc on étudie les demandes des usagers, et donc pour ceux qui connaissent Bordeaux, vous savez, le quartier de Mériadec est un quartier un peu particulier, très administratif, et il se trouve qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient à la bibliothèque, qui ne se signalaient pas forcément comme telles, mais qui étaient demandeurs d'emploi, qui venaient auparavant, alors à l'époque à l'NPE, et ensuite à Pôle emploi. Ça, c'est un point important, et souvent on voit ce type d'espace avec des partenariats en milieu rural, quand les administrations peuvent être très loin, et là c'est l'inverse en fait, les administrations sont proches, mais ne répondent pas forcément aux attentes des personnes. Je me rappelle quelque chose qui avait marqué à l'époque à l'ANPE. Les usagers de l'ANPE n'avaient accès à des logiciels de bureautique pendant un temps très limité, puisque c'était une demi-heure. Donc elle venait ensuite à la bibliothèque et pour faire la suite, parce qu'en une demi-heure, rédiger un CV ou autre, c'est vraiment pas évident. Donc là, on se trouve dans un contexte un petit peu particulier. Et pour faire émerger ce projet, on s'appuie aussi sur d'autres bibliothèques. Donc, la BPI, bien sûr, puisqu'à l'époque, on a visité nos collègues de l'espace auto-formation, et le Carrefour numérique, qui est à la Cité des sciences et la Cité des métiers, toujours la Cité des sciences et de l'industrie à la Villette. Alors cet espace, en termes de contenu, est assez atypique, puisque nous mélangeons des collections d'imprimés et du numérique. C'est-à-dire que nous n'avons pas fait le choix, contrairement à d'autres bibliothèques, d'avoir un espace multimédia complètement fermé, vitré, avec des animateurs, mais des ordinateurs un peu disséminés dans l'ensemble de l'espace, répondant aux collections d'imprimés spécialisées, alors donc dans trois points forts, hein, qui sont l'emploi et la formation, incluant les concours administratifs, les langues, puisqu'on s'est aperçu qu'évidemment il y avait des besoins dans ces domaines-là, alors langue étrangère et français, langue étrangère et maternelle, et puis tout ce qui était bureautique et informatique. Donc on a des collections d'imprimés, environ 6000 guides pratiques dans ce domaine-là, et un réseau de 34 postes informatiques permettant d'accéder à Internet, mais aussi proposant des ressources d'auto-formation. Voilà sur ces collections. Alors, je vais laisser un peu de suspense sur les partenariats, mais après, je vous en parlerai plus. Mais la notion de partenariat est essentielle dans ce type de service, et la Maison de l'Emploi a répondu notamment en étant un partenaire de notre proposition. Je passe la parole à Abdessamad.
Merci. Oui.
En nous rappelant ce qu'est la Maison de l'Emploi, de qui vous dépendez, puisqu'il s'agit de partenariat.
Je dirais un petit mot. Donc Abdessamad Bazizi, merci d'abord de votre invitation. Bon, c'est un peu comme l'hôpital. Moi, c'est un public moi, je viens du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, et c'est vrai que le monde des bibliothèques, c'est quelque chose que je connais. Bon, j'adore les livres, mais à part ça, c'est le seul point commun. Voilà. La Maison de l'Emploi, la plateforme d'initiative, et quel est ce partenariat, d'où il vient, quels étaient les objectifs et les motivations de départ. La Maison de l'Emploi de Bordeaux, c'est une structure qui existe, c'est une structure nationale qui a été labellisée et mise en place par le ministre à l'époque en 2005, le ministre Borloo, dans le cadre de la cohésion sociale. Et donc c'est des structures qui se veulent de proximité et qui répondent à des problématiques d'emploi, de développement économique, mais avec une approche très territoriale. Vous avez l'acteur clé quant à l'organisation et au traitement de la question de l'emploi, qui est Pôle emploi, qui est un établissement public, et le législateur a voulu organiser et mettre en place une structure de proximité. Et la Maison de l'Emploi est née en 2006 à Bordeaux. C'est toujours porté par une collectivité locale, justement, pour avoir justement cet outil de proximité et de développement de l'emploi et de l'économique, du développement économique dans la proximité. Ici, la ville de Bordeaux donc, a mis en place la Maison de l'Emploi en 2006. Donc on est clairement rattaché à la mairie de Bordeaux. Hein. Et donc 2006, on est une équipe d'une trentaine de personnes. On travaille selon trois axes principalement, pour vous faire très court. D'abord, l'axe observation du territoire. Donc on mène des études, on mène de l'observation quant à des secteurs d'activité, quant à des tendances, quant à des métiers en tension, des secteurs en tension. Donc il y a tout un travail d'observation qui peut vous servir aussi dans votre travail et qui est mis à disposition via nos différents outils de communication, sites, newsletters et j'en passe. Donc observation de territoire. Deuxième axe de travail, aide au retour à l'emploi. Donc ça, c'est le plus classique. Donc en complémentarité avec Pôle emploi, avec les autres, ce qu'on appelle le SPEL, Service public de l'emploi, mission locale, PLI de Bordeaux, Pôle emploi, etc., les MDSI du Conseil général, nous travaillons en étroite collaboration pour aider au retour à l'emploi à travers des forums emploi, à travers le PLI aussi, c'est-à-dire l'accompagnement des publics les plus éloignés de l'emploi. La mission locale, etc., on travaille avec tous ces acteurs que vous connaissez certainement. Et enfin, troisième axe, création et développement des entreprises. Et donc ça, c'est le pôle que moi, je dirige au sein de cette structure, avec deux axes principaux. Le premier, c'est l'aide à la création d'entreprises. Je vais y revenir dans un instant parce que c'est l'objet de mon propos. Et enfin, une pépinière que l'on gère, celle des Chartrons. Je ne sais pas si vous la connaissez, pépinière éco-créative des Chartrons, qui est axée sur les métiers du numérique et l'économie créative. Voilà un petit peu pour le cadre Maison de l'Emploi. Au sein de cette structure Maison de l'Emploi de Bordeaux, nous avons un dispositif qui s'appelle la plateforme de l'initiative. Et donc, qu'est-ce que c'est cette plateforme, cet outil ? D'abord, quels sont les constats ? Pour vous fixer un peu le cadre, mais après, s'il y a des questions, je reviendrai dessus. La création d'entreprises aujourd'hui est un moyen répandu qui s'est beaucoup démocratisé pour créer son entreprise, bien sûr, mais aussi créer son propre emploi. Pour vous donner un petit peu quelques chiffres, par exemple, entre 2008 et 2010, on a eu un boom de la création d'entreprises, certes dopé par l'auto-entrepreneur, le régime de l'auto-entrepreneur. Peut-être que parmi vous, ici, il y a des auto-entrepreneurs. Donc, on a eu plus de 90% d'augmentation du nombre de créations d'entreprises. Évidemment, l'essentiel était dopé par le régime de l'auto-entrepreneur, qui est une entreprise individuelle, pour faire court. En 2013, nous avons eu sur Bordeaux près de 3000 créations d'entreprises. Certes, sur la masse totale de la population, ça reste, ça reste de l'ordre de taux d'entrepreneuriat, ça reste de l'ordre de 5%, c'est un nombre d'entrepreneurs par rapport aux salariés. Mais celui-ci, la création d'entreprise, connaît aujourd'hui un boom extraordinaire et il devient une vraie alternative, une vraie solution pour la création de son propre emploi. Voilà un petit peu le cadre et quelques chiffres. Maintenant, la plateforme, à quoi elle sert et à quoi elle répond. D'abord, moi, puisque j'ai mis en place cet outil, hein, parce qu'il n'existait pas de service création d'entreprise au sein de cette maison de l'emploi. D'abord, je suis parti de trois constats. Le premier, c'est lorsque vous avez un projet de création d'entreprise, je vais la faire court parce que je n'ai peut-être pas besoin de rentrer dans les détails de la création d'entreprise ici, mais les questions, j'y répondrai avec plaisir. D'abord, l'offre d'accompagnement à la création d'entreprise, c'est un peu comme d'autres secteurs. Vous savez, en France, on a beaucoup de choses qui sont éparpillées, qui sont épars, qui sont superposées. C'est ainsi. Et donc, la création d'entreprise n'échappe pas à cette problématique. Donc, on a beaucoup d'acteurs, beaucoup de dispositifs, chacun ayant ses critères et ses conditions d'accès. Et donc, il fallait mettre un peu d'ordre, entre guillemets, dans cette offre de l'accompagnement à la création d'entreprise. Et donc, il fallait rendre lisible et visible cette offre d'accompagnement. Premier constat. Deuxième constat, nous voulions organiser l'accueil des créateurs d'entreprises dans la proximité. Et c'est là où les bibliothèques jouent un rôle important. J'y reviens dans un instant, assez rapidement. Et troisième constat, il existe beaucoup d'acteurs qui accompagnent à la création d'entreprises. Vous connaissez certainement les chambres de commerce, l'ADI, les experts comptables, la CSDL, les gens passent et des meilleurs. Mais tout ce beau monde n'était pas comment dire, on ne pouvait pas y avoir accès dans un endroit mutualisé, si vous voulez. Et la plateforme se propose d'animer ce réseau. Donc, c'est la plateforme d'initiative, c'est le premier réseau des acteurs de la création d'entreprise sur Bordeaux. Elle fédère aujourd'hui plus de 25 acteurs institutionnels, associatifs, privés, etc. Et donc, la quasi-totalité des grands acteurs de la création d'entreprise y sont représentés. Je ne sais pas si je parle de partenariat tout de suite ou on passe d'abord. C'est après ? Je sais pas.
On peut enchaîner peut-être juste. Quand vous parlez maison de l'emploi, bibliothèque de Bordeaux, vous parlez de service municipal à service municipal, ou vous êtes bibliothèque, service municipal et maison de l'emploi, vous êtes une structure associative, d'accord ?
Tout à fait, oui.
Donc en termes de partenariat, on est déjà sur un registre un peu différent. Vous trouvez un lieu public à la bibliothèque ou dans le réseau des bibliothèques avec de la ressource, au sein duquel vous venez développer vos missions et votre capacité
tout
de conseil et d'accompagnement.
Ça marche, ça m'évitera. Ça libérera même. Tout à fait. D'abord, oui, vous avez raison. La Maison de l'Emploi, c'est une association. Donc, pas un service direct municipal, mais c'est une structure qui est liée indirectement à la mairie de Bordeaux, puisque financée par celle-ci. On a trois sources de financement, l'État, la mairie et l'Europe. Voilà. Deuxième, ce que vous disiez à l'instant, quel est le... Je sais qu'avec Johan, on avait travaillé, je crois que c'était en 2000, je ne sais plus, en 2000, ça fait maintenant 3 ans, 3 ou 4 ans qu'on a mis en place ce partenariat. L'intuition est de se dire qu'aujourd'hui, vous l'avez vu depuis ce matin, je pense, la notion de transversalité et de proximité sont deux notions clés. Alors ça s'explique par plein de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, enfin, je ne suis pas expert de la chose, mais il y a les coûts, il y a les baisses aussi des moyens, il y a aussi les gens qui peuvent de plus en plus se déplacer facilement, mais en même temps ont besoin de plus en plus de proximité, tout ça est un peu paradoxal, c'est un peu presque de la philosophie. Mais disons qu'aujourd'hui, la notion de transversalité, c'est-à-dire de pouvoir réunir dans des structures qui traitent de différentes thématiques, etc., des services de proximité, ça c'est une notion aujourd'hui clé qui se développe. Et puis la proximité, on veut amener le service au plus proche du citoyen. Et donc, moi, quand j'ai regardé un petit peu toutes les bibliothèques qui existaient, j'ai regardé la centrale, bien sûr, mais aussi et surtout toutes les bibliothèques de quartier. Et j'ai dit, j'ai là un extraordinaire maillage qui va me permettre à moi d'apporter l'offre plateforme de l'initiative au plus proche du citoyen. Pour moi, il n'y a pas un meilleur maillage, si vous voulez. Alors ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, je me suis dit qu'il y a des livres, c'est un lieu de connaissances. Ben, pourquoi pas y associer les deux choses ? C'est-à-dire qu'on peut y mettre une bibliographie liée à l'entrepreneuriat, à comment monter son business plan, comment faire une étude de marché, les différents statuts, etc., etc. Et en même temps, avoir quelqu'un, un conseiller, qui puisse vous accueillir dans la proximité. Et donc, c'est un peu cette réflexion qui a amené à développer ce partenariat. Et j'en suis très content. Certes, au départ, on avait quasiment toutes les bibliothèques de quartier, on avait un conseiller, enfin on avait quelqu'un qui tenait des permanences dans ces bibliothèques. Après, avec le temps, on a optimisé, mais aujourd'hui on a deux ou trois bibliothèques dans lesquelles on tient des permanences de proximité, et donc les personnes, Or, souvent, ce n'est pas les publics fréquentant habituellement les bibliothèques, c'est-à-dire que c'est des gens. Lorsque la personne nous appelle et qu'elle est, par exemple, je dis n'importe quoi, elle est de Saint-Michel, et qu'elle nous dit j'ai un projet, je voudrais rencontrer quelqu'un, on va la faire venir sur la bibliothèque des Capucins, par exemple. Elle y a peut-être jamais mis les pieds, mais c'est l'occasion d'y mettre les pieds, de rencontrer quelqu'un et de pouvoir être conseillé sur son projet. Et donc aujourd'hui, moi, ce partenariat, il reste à être optimisé, mais je pense que le bilan et les résultats sont bons et doivent être poursuivis. Deuxième chose, et je finirai là-dessus parce que je ne vais pas être très long, on a aussi un outil d'aide à l'émergence de projets. Donc on s'est dit comment dans ces bibliothèques, des gens qui sont très éloignés de l'entrepreneuriat, mais qui ont juste une envie, celle d'entreprendre, mais ils n'ont pas d'idée, ils n'ont pas de projet, ils n'ont rien du tout. On a mis en place un outil qui s'appelle l'outil Balise et qui est un outil d'aide à l'émergence d'idées. À partir d'une envie, celle d'entreprendre, parce que ça représente plein de choses pour vous, l'indépendance, l'autonomie, tout ce qu'on veut, etc., etc. On travaille avec un outil pour essayer de déterminer à partir de ce que vous êtes les ensembles d'idées d'idées d'abord, d'activités, puis après de projets qui deviendront peut-être une entreprise que vous pouvez être susceptible de porter. Voilà, je ne vais pas être plus bavard.
Merci, merci beaucoup. Et Johan va poursuivre et prolonger. Peut-être, moi, j'introduis une question, c'est aussi jusqu'où, dans ce partenariat, vous avez été amené à qualifier et à former des personnels des bibliothèques par rapport à cet enjeu, au-delà juste de l'accueil de la structure Maison de l'Emploi dans vos espaces.
Je vais répondre après. Je vais d'abord préciser peut-être ce qu'était Abdelmé Samad. Alors, ce que dit Abdelmé Samad fait plaisir parce que j'ai eu l'occasion d'étudier un petit peu la question sur le territoire français. Et bien souvent, ce sont les bibliothèques qui vont chercher des partenaires dans ce domaine-là. Et là, c'est un partenaire qui identifie les bibliothèques comme un service de proximité, de maillage du territoire. Et ce n'est pas si courant que ça. Ça peut paraître évident, nous, dans la profession. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir quelqu'un qui est identifié à un lieu qui est ouvert à tous. C'est vrai qu'on n'est pas stigmatisant, qui normalement a des horaires d'ouverture assez larges, ou au moins différents des autres administrations. Donc voilà. Alors, la question des partenariats est essentielle, je disais, pour un espace comme les espaces sur l'emploi et la formation. Nous, à l'espace Actualité de formation, on l'a identifié sur 3 points, en fait. Le partenariat est essentiel pour toucher le public cible, en fait. Sans partenariat, c'est extrêmement compliqué d'aller toucher les publics en demandant d'emploi ou en formation ou autre. Donc c'est par ce partenariat qu'on va amener des personnes qui peuvent être éloignées de la bibliothèque. Je pense par exemple à des partenariats avec des APP, des ateliers de pédagogie personnalisés, hein, qu'on a connus grâce à la BPI d'ailleurs. Des personnes qui sont en formation pendant 6 mois et qui viennent à la bibliothèque s'auto-former sur nos postes. Donc ça, en général, c'est un public qui ne venait pas à la bibliothèque. Le deuxième point sur ces partenariats, et ça, c'est rarement évoqué, c'est dommage, c'est tout ce qui est lié aux acquisitions, en fait. Ces partenaires nous aident dans nos acquisitions parce que, tout simplement, nous ne sommes pas des spécialistes de ces domaines-là. Ils nous proposent parfois, et c'est le cas avec la Maison de l'Emploi, des bases de données, alors là, en l'occurrence, c'est numérique, des bases de données auxquelles nous n'aurions pas du tout accès parce que c'est de la littérature grise, ce sont des bases de données spécifiques à ces administrations-là. Grâce à la Maison de l'Emploi, nous avons accès à Balise, qui est une base de données de retour d'expérience de créateurs d'entreprise. Et enfin, sur ces partenariats, c'est tout ce qui est lié au conseil, au service, et ça, nous y croyons de plus en plus. Dans ces types de services, la bibliothèque met en place un espace, mais aussi des services. Et ces services-là, on peut les rendre que grâce à des partenaires, donc Maison de l'Emploi, mais aussi quand c'est directement lié à la recherche d'emploi, au CV. Ça, c'est une problématique que tous les espaces ont, hein, dans ce domaine-là, c'est où le bibliothécaire s'arrête. Où est-ce que le bibliothécaire doit-il aider à la rédaction du CV ? Donc là, c'est l'affaire de compétences. Et là, c'est pas la compétence du bibliothécaire. Ça doit être la compétence du partenaire qui vient intervenir dans ce domaine-là. Et on trouve de plus en plus de bibliothèques qui ont des partenariats dans le domaine du conseil. Mais historiquement, d'ailleurs, dans le service actualité, il y avait des partenariats de ce type. Je pense à le ministère des Finances et tout ce qui est lié aux impôts. Au moment de la déclaration de revenus, alors ça s'est arrêté parce que justement cette administration n'avait plus les moyens de nous fournir du personnel, mais tous les ans, il y avait des personnes qui venaient aider les usagers à remplir leur déclaration de revenus. Et ça, c'est vraiment un plus. Et on retombe de toute façon toujours sur la notion de collection, parce que j'ai souvent des collègues ou des personnes extérieures, hein, qui se posent la question de la mission de la bibliothèque. Est-ce qu'on est vraiment dans nos missions? Est-ce que c'est à nous de faire ça? Oui. Et on retombe toujours sur cette notion de collection parce que c'est le cas de la Maison de l'Emploi, c'est le cas de Pôle emploi. Ils accueillent des personnes en leur sein, mais n'ont pas forcément de collection, n'ont pas forcément de bibliothèque à disposition. C'est le cas à Pôle emploi. Et donc, ces personnes-là et les usagers qui sont liés sont extrêmement heureux de venir dans un lieu où on peut avoir du conseil, des collections à disposition, des espaces numériques avec des ressources électroniques. Et on conjugue, en fait, ces 3 points dans ces espaces-là. Alors, sur la question de la formation... c'est quelque chose qui est assez complexe. Alors, à Bordeaux, c'est assez complexe parce que le système fait que sur les espaces publics, sur les banques de renseignement, nous avons beaucoup de monde, en fait. Il y a un système de planning et de passage de personnes d'autres services. Ce qui fait que, par exemple, à Autoformation, dans ce service-là, il y a plus de 30 personnes, 30 collègues qui interviennent. Et donc, on fait des formations, si vous voulez, sur les outils numériques. On fait des points, mais c'est vrai que la mise à jour des connaissances est assez complexe de ce point de vue-là. Alors après, sur ces domaines-là, il y a, je regarde les collègues de Médiaquitaine, il y a une formation justement, et je crois que c'était sur demande de la DRAC, hein, il me semble, sur justement l'emploi, la formation, comment monter ce type de service. Et voilà, c'est intéressant aussi que ça passe par ce biais du Centre régional de formation carrière de bibliothèque.
Oui, 5 et 6 décembre.
Oui,
5 et 6 décembre, ça sera dans le prolongement juste de cet exposé-là. Il nous reste une dizaine de minutes peut-être pour des réactions, des questions, réponses autour de cet enjeu de la formation. On voit bien qu'à travers l'exposé à double voix, combien les bibliothèques peuvent être un carrefour et un lieu, non seulement un lieu public ouvert, mais avec des personnels et des collections qui font converger un certain nombre de réponses à des attentes de concitoyens qui ne concernent pas spécifiquement l'enjeu de l'imprimé ou même du CD, DVD, de la médiathèque, mais bien au-delà sur des enjeux de recherche d'accompagnement et d'ouverture de lieux publics sur des volumes horaires effectivement qui peuvent être distincts de ceux des administrations. Est-ce que, peut-être pour conclure la matinée, dans la salle, par rapport à cette expérimentation, enfin qui n'est plus une expérimentation, mais à ce service et cette pratique au sein du réseau des bibliothèques de Bordeaux, il y a certaines interventions ou certaines réactions qui souhaiteraient se faire jour.
Oui, juste une question très simple. Qu'est-ce que vous avez remarqué en termes de progression d'utilisation de ce service et de ce partenariat sur ces dernières années, entre autres par rapport à la conjoncture économique et par rapport à la familiarité qu'a pu avoir le public de ce service?
Alors là, c'est au-delà même du partenariat avec la Maison de l'Emploi. C'est vrai que ces dernières années, on a constaté une hausse vraiment importante des demandes sur ce type de service. Et en lien avec évidemment la crise économique, mais c'est vraiment des services hein, comme le nôtre, des services sociaux, mais au sens très large en fait. Hein, on a des demandes dans tous les domaines. On parle de l'emploi, la formation, mais on va voir des personnes qui viennent une ou deux fois parce que elles se demandent comment imprimer un formulaire CAF, par exemple. C'est ce genre de choses. On l'a tous les jours. C'est des demandes très concrètes sur la vie quotidienne. Et quand je dis espace social, c'est vraiment espace aussi de sociabilisation, de rencontre. Il y a des personnes qui viennent dans cet espace qui se connaissent parce que voilà, elles viennent régulièrement. C'est au-delà même de l'offre, des collections, vraiment un lieu dans la ville où on peut venir rencontrer d'autres personnes ayant les mêmes problématiques. Mais effectivement, hein, pour les statistiques. On a l'espace de 34 postes et tous les jours en fin de journée, on se rend compte que tout l'espace est pris, quoi, en fait, hein, que les personnes qui viennent en fin de journée n'ont pas forcément accès aux postes informatiques.
On va avoir une dernière question ou prise Hélène. De parole.
Très, très rapidement, pour ne pas faire prendre trop de retard au programme, hein. Merci pour la publicité faite au stage donc, que Médiaquitaine organise les 5 et 6 décembre et pour lequel, j'insiste, il reste des places. Et donc, au cours duquel Johan Bourion et Bessamat Bazizi viendront effectivement parler de ce...
C'est pas pour ça qu'on en a parlé. Hein.
Cette expérience. Mais ce sera utile, je pense. Ainsi qu'une représentante du réseau des missions locales qui peut être aussi un partenaire très, très important, très intéressant pour les bibliothèques. Et puis le deuxième jour sera consacré à des expériences plus éloignées, mais assez pertinentes dans ce domaine, notamment la bibliothèque d'études et d'informations Cergy-Pontoise et la médiathèque de l'Astrolabe à Melun, ainsi qu'un partenaire régional, hein, qui est l'agence Aquitaine Cap Métier, qui est aussi un partenaire de ressources très intéressant pour les bibliothèques et qui gagne à être connu de ce point de vue. Moi, mon interrogation, en fait, elle porte sur cette déclinaison d'offres sur des collectivités beaucoup plus petites et qui n'ont pas forcément les moyens de la ville de Bordeaux ou même de la ville du Bouscat qui a ce projet aussi, entre autres, et notamment en milieu rural où l'intercommunalité peut effectivement, comme dans des réseaux comme celui de Mourinx, ont les moyens de proposer ce type de service, mais où là je rejoins tout à fait ce que vient de dire Johan Bourion, la question du partenariat est essentielle mais doit être portée et valorisée auprès des tutelles, auprès des décideurs. Je pense à une toute petite commune dont Johan nous avait parlé, que j'avais sollicité pour intervenir dans ce stage, qui est la commune de Pampelonne en Tarn et Garonne, ou dans le Tarn, qui est une toute petite bibliothèque avec dont l'expérience est relatée dans l'ouvrage paru aux presses de l'ENSIB, dans lequel est présente également l'expérience de Bordeaux, qui associe donc à cette petite bibliothèque tête d'un réseau intercommunal de toutes petites communes des services liés à l'accès à l'information concernant l'emploi et la formation, mais qui a de grosses difficultés à fonctionner compte tenu du manque de personnel et du manque de personnel des deux côtés, côté service municipal médiathèque et côté service au pluriel de l'emploi et de la formation. Voilà, donc je m'interroge sur la possibilité de décliner ces services sans qu'il y ait quand même des moyens humains pour les faire vivre. Et donc je pense qu'effectivement, c'est aux professionnels des deux secteurs d'insister auprès des tutelles sur l'importance et l'utilité de ces services.
Merci beaucoup. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de réponse par rapport à cette prise de parole. Ensuite, effectivement, c'est insister auprès des tutelles et puis tirer parti aussi de ce qui peut exister en réseau. Évidemment, tu as cité Aquitaine Cap Métier. Il y a effectivement un certain nombre de partenaires qui mettent à disposition des ressources qui sont disponibles et ensuite dont il s'agit de les porter à la connaissance et de parvenir à en tirer profit localement jusqu'en milieu rural sur des endroits où effectivement la capacité à mobiliser des équipes est sans doute plus délicate. Abdessamad, peut-être une dernière prise de parole et ensuite on passe la parole à Johan pour une présentation des nouveaux espaces de la bibliothèque.
Très rapidement, juste moi ça m'inspire une petite réaction à ce que vous venez de dire. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas forcément besoin de moyens supplémentaires pour développer des synergies en fait, parce que c'est ça. Puisque si vous voulez, les acteurs de l'emploi, de l'entrepreneuriat, enfin tous, ils ont besoin aujourd'hui de diversifier leurs sources de personnes. Et donc, ils veulent diversifier leur présence. Tous les acteurs que je connais et que j'anime au sein de la plateforme sont demandeurs et sont de ce type de synergie. Mais on ne va pas vous dresser un tableau tout beau, tout parfait non plus. C'est vrai que quand on a débarqué dans les bibliothèques, en certaines petites bibliothèques de Bordeaux, Johan, il ne m'écoute pas. Et c'est vrai qu'il y avait des petites... les bibliothécaires nous disaient, mais qu'est-ce que vous venez faire dans notre monde, l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, etc. Franchement, il faut aussi un peu d'ouverture d'esprit. Nous, on a eu des difficultés avec certaines bibliothèques. Alors, on avait une décision avec la direction, etc. Mais après, dans les mentalités et les personnes qui gèrent vraiment chaque lieu, c'était pas simple avec tout le monde. Donc, on a besoin aussi d'une ouverture d'esprit, etc. Mais on n'a pas besoin de moyens supplémentaires. On a besoin juste que chacun d'abord reste sur son métier. Parce que moi, le livre, à part le lire, je ne sais pas en faire autre chose. Par contre, voilà, j'ai un métier. Et donc, il faut faire des synergies. On ne demande pas à un bibliothécaire de faire de la création d'entreprise, de faire du CV ou quoi que ce soit. Mais on a plein de structures qui sont prêtes demain à venir, etc. Mais il faut que les bibliothécaires les accueillent. Parce que nous, on avait des conseillers. Et c'est, s'il vous plaît, il y a des gens qui lisent. Bon, on n'était pas super bien accueillis non plus, quoi. Voilà.
Régine Daval, BPI. Moi, j'avais quand même une question à ce niveau. Est-ce qu'il ne manquerait pas un maillon dans ce beau partenariat qui est l'éducation nationale? Parce que est-ce que l'orientation scolaire n'a pas son importance après dans le choix d'un métier? Donc, des invitations pour présenter des métiers, choisir le beau parcours, la bonne filière à l'université ou ailleurs. Est-ce que ça n'a pas son impact, donc un partenariat autre ou un travail avec l'éducation nationale?
Oui, tout à fait. Là, on a présenté un exemple de partenariat. Là, la politique de partenariat avait été mise un peu en sommeil avec la politique de travaux qu'il y a eu à la bibliothèque Mériadec. Et c'est vrai qu'on a fermé certains services pendant un certain temps. Mais là, on va réactiver nos partenariats. Et l'éducation nationale fait partie de ça. D'autant plus qu'on a la chance à Bordeaux d'avoir un réseau qui s'appelle EFE, qui s'appelle Éducation, Formation, Emploi, qui met en lien tous les acteurs de ce domaine-là dans le domaine de la documentation. Alors, tous les trimestres, une trentaine de structures, voilà, donc bibliothécaires, documentalistes, se rencontrent. Justement, cette notion de partage, parce que, comme je vous disais, il faut savoir s'arrêter quand on donne des renseignements, mais il ne faut pas s'arrêter sèchement. Il faut savoir aussi réorienter la demande. Et ce réseau, justement, nous aide à réorienter ces demandes. Et dans ce réseau, on a justement les centres d'information et d'orientation. Et par ce biais-là, on peut communiquer des informations, de la documentation aussi. Hein, on partage la documentation. Reste effectivement, maintenant que nous avons réouvert, à formaliser tout ça et à voir peut-être justement sur ces permanences conseils comment s'organiser.